les Raptors de Toronto. Écoutez, c'est une histoire incroyable. Rappelez-vous, il y a quelques années, lorsque TVA Sport est né, TVA Sport était tout heureux de dire qu'ils avaient obtenu les droits de diffusion des Raptors. Ben, ça n'a pas pris de temps, on a largué ça. Les téléspectateurs, on ne les comptait pas, on les nommait tellement qu'il y en avait peu. Eh bien là, RDS a fait des auditoires de plus de 300 000. Sportsnet est allé chercher plus de 2 millions. Imaginez, c'est incroyable. Mais il y a tout un phénomène alentour de ça. Et lorsque le phénomène est rendu à être étudié dans les universités, ben ça donne une sorte de crédibilité à ce phénomène-là. Pour en parler, on retrouve Nicolas Moreau. Il est professeur à l'Université d'Ottawa. Monsieur Moreau, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez regardé de l'aspect un peu plus scientifique du phénomène?
Ben, en fait, j'essayais déjà de me détacher puisque je suis aussi fan des Raptors. J'ai été très content de cette première victoire hier. Mais ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a un réel engouement au niveau du basket déjà depuis quelques années. En général, au Canada, hein, le Québec, ça fait il y a une augmentation par exemple de 25% au cours des dernières années des pratiquants. Mais au niveau spécifiquement des Raptors, on a vu qu'il y avait un engouement non seulement au niveau de la ville de Toronto, mais au travers de tout le Canada. J'étais extrêmement surpris, par exemple, de voir pour la fin de semaine des courses à Ottawa, samedi et dimanche, un nombre considérable de personnes qui avaient le chandail des Raptors. Alors, il y a un réel engouement au Canada. Avec les Raptors. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a différents types de fans et la littérature sociologique au niveau sportif nous montre un peu que il y a ce qu'on va appeler des flâneurs, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont s'intéresser à une équipe qui gagne et quand cette équipe-là, elle va avoir de moins bons résultats, et ben c'est des gens qui vont se désintéresser. Mmh. Et là, on assiste à un engouement très important. Reste à savoir si justement les personnes qui en ce moment prennent fait et cause pour les Raptors vont être simplement un épiphénomène, donc ce qu'on appelle dans la typologie des fans, des flâneurs, donc des gens qui vont aller dans une ou deux années, et ben se désintéresser du basket, ou si vraiment ça va devenir des fans purs et durs, comme on peut voir par exemple dans les Maple Leafs ou chez les Canadiens de Montréal, c'est-à-dire que peu importe les résultats, ben les gens vont toujours s'intéresser à leur équipe. Donc, c'est aussi une question d'identification. Ce qui est difficile de prévoir en ce moment, c'est quel degré d'identification à long terme ces personnes-là vont avoir avec les Raptors.
Le sport, ça rassemble, on s'entend là-dessus. Sociologiquement parlant, jusqu'à quel point le sport peut faire du bien à une société, peut la rassembler, peut combler des vides peut-être dans des vies ou dans des passages de saison?
Mais c'est très intéressant et c'est une question qui traverse toute la sociologie du sport, en fait. Le sport, ça a été pour un certain nombre de sociologues traditionnels, c'est un exutoire social, c'est-à-dire c'est un peu les eaux du cirque. Et donc ça a cette fonction-là, finalement, de canaliser une certaine, parfois, énergie, frustration sociale, donc vous allez dans les estrades, et vous allez crier votre manifestation, votre mécontentement, etc. C'est ce qu'on voit beaucoup, en particulier en Europe, au niveau des stades de soccer, mais c'est aussi une identification à la ville. Par exemple, le Canadien de Montréal avait vraiment il y a vraiment une histoire au travers, par exemple, du fait français avec Maurice Richard, etc. Puis il y avait aussi une identification, une fierté à s'identifier à ce club-là. Il y a d'une part l'exutoire social, d'autre part l'identification à un club, mais c'est aussi, comme vous avez dit, c'est possiblement une création de lien social, c'est-à-dire que je pense que comme un club comme les Raptors, qui est en train finalement, ou une équipe de basket et aussi une équipe très métissée dans une société comme Toronto qui est extrêmement multiculturelle, les personnes se reconnaissent dans ces clubs-là, et ben ça crée des liens sociaux et des discussions entre les personnes. Il faut vraiment aller voir les gradins des Raptors pour voir finalement tout, et contrairement au hockey par exemple, une multitude finalement deux cultures qui sont présentes dans les Granats, et c'est ce qu'apporte par exemple le basket, contrairement peut-être au hockey où en fait il y a deux trois joueurs racisés qui sont dont Piqué Souban, dont je me suis pas remis probablement du transfert, mais comme beaucoup d'ailleurs de fans de Canadiens, mais l'idée c'est que ce multiculturalisme là qui est propre au basket touche aussi beaucoup les jeunes générations, et quand on discute avec moi je travaille beaucoup aussi avec certains organismes sociaux à Toronto, et il y a vraiment une identification forte des jeunes issus des communautés envers ces joueurs de basket là qui constituent aussi des modèles.
Jusqu'à quel point le sport, et j'inclus les Raptors parce que les Raptors sont là depuis près de 25 ans, jusqu'à quel point des équipes comme ça dans des villes peuvent créer une identité, des racines à une ville? Je parle entre autres des Yankees de New York, des Blackhawks de Chicago, des Leafs de Toronto, Canadiens de Montréal, des Lakers de Los Angeles, des Packers de Green Bay. Jusqu'à quoi ça peut forger, vu de l'extérieur, l'identité d'une ville?
Eh bien, c'est en fait, c'est aussi une excellente question. Ça dépend de, je vous dirais que ça dépend de l'histoire du club avec la ville. Si vous avez, si on reprend par exemple l'exemple des Lakers de Los Angeles, c'est très lié au showbiz, etc. Puis leurs rivaux, les Clippers, c'est beaucoup plus le club de la banlieue. Donc il y avait aussi une histoire de rivalité, par exemple, entre ces deux clubs-là. Le Canadien, qui est aussi finalement ce mélange d'anglophones, francophones, si on regarde un peu plus de façon complexe. Ça dépend vraiment de la composition sociodémographique d'une ville. Vous avez Liverpool qui est en Angleterre, qui est un club de soccer où les gens sont c'est beaucoup des dockers, etc., qui travaillaient, donc très très ouvriers. Tout dépend, je vous dirais, de l'implantation, mais après de l'histoire du club dans la ville. Mais après, les gens vont se reconnaître dans ce club-là par rapport à certaines valeurs. Et c'est ça qui est intéressant quand vous regardez un petit peu l'identification des personnes à des clubs de sport. Ce qu'ils vont aller chercher, c'est ils nous représentent comme individus. Par exemple, je reviens souvent au Canadien de Montréal, parce que j'avais écrit un livre il y a quelques années sur le Canadien, donc j'ai beaucoup d'exemples. Ça va être la personne qui travaille, la personne qui s'affirme.
Du cœur au ventre.
Exactement, et c'est ce que les gens vont aimer au-delà des résultats, au-delà du bling-bling, mais vous pouvez avoir par exemple, les Yankees, c'est New York, c'est un peu, alors c'est pour ça qu'à l'époque, on disait, vous savez, quand il y avait eu le transfert d'Alex Rodriguez il y a quelques années, le transfert record en baseball,
tout à fait.
Et on avait dit, ça fait partie de l'image de New York, d'avoir des stars comme ça, etc., d'avoir aussi il y a une communauté japonaise importante, donc il faut des joueurs qui nous représentent aussi dans la communauté, donc tout dépend de l'histoire. L'histoire des villes, en général, vous avez un club qui marche de sport, c'est aussi un club qui a su s'inscrire dans le tissu social de la ville. Donc, c'est vraiment, Et au hockey, d'ailleurs, ils essayent de faire ça parce qu'ils essayent aussi de plus en plus d'avoir, par exemple, d'inscrire vraiment les amphithéâtres au sein de la ville. On dit d'ailleurs, il y avait le slogan la ville est hockey. Donc, il y a quelque chose où ils essayent vraiment d'inscrire ce club-là au sein du tissu social de la ville, et on n'est plus du tout dans, par exemple, le mythe de l'étang gelé, l'idéal avec le hockey. On n'est pas ça, c'est vraiment devenu quelque chose d'urbain, et les Raptors viennent exactement chercher ça aussi, cette urbanité finalement dans le tissu social.
On est en compagnie de Nicolas Moreau, il est professeur à l'École de services sociaux de l'Université d'Ottawa. Les Raptors sont là depuis, disons, un quart de siècle. Les Argonauts de Toronto, vous allez me dire que c'est un circuit inférieur, mais tout de même, c'est la Ligue canadienne. Ils sont là depuis, ma foi du bon Dieu, 70-80 ans. Les Leafs de Toronto sont sur le point de fêter leur 100e anniversaire. À Toronto, on sait que c'est une des cinq plus grandes agglomérations de l'Amérique du Nord. Jusqu'à quel point on réussit à cristalliser le positionnement des Raptors? Vous avez parlé tantôt qu'on va voir si c'est éphémère, s'il y a des gens qui vont passer, mais dans la ville reine comme telle, est-ce que les Raptors ont réussi à bien s'incruster, à avoir un bon positionnement par rapport à d'autres équipes sportives qui sont là depuis des années.
Mais je pense que les Maple Leafs, il y avait un article dans la presse où ils disaient les Maple Leafs ont raté leur série, etc. Et on voit juste les Raptors. Mais en réalité, il y a quand même une histoire vraiment de Toronto avec les Maple Leafs. Mais peu importe, je pense, les résultats des Maple Leafs, les Maple Leafs resteront toujours au-dessus des Raptors parce qu'il y a une culture quand même du hockey qui c'est notre sport quand même national d'hiver, hein, parce que je rappelle que le sport national d'été du Canada, c'est la crosse, c'est pas juste notre sport national tout court, donc c'est notre sport national d'hiver. Et donc il y a une identité tellement forte au hockey, avec le hockey, que je pense que les Raptors dépasseront jamais le hockey, mais par contre, ils peuvent s'installer durablement, je vous dirais, moi, au niveau peut-être des Blue Jays. Vous n'avez pas cité les Blue Jays de Toronto, mais vous avez beaucoup, par exemple, de fans des Blue Jays qui sont d'ailleurs déjà presque éliminés. Hein. Mais après, ça va être... Ce qui est difficile et ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est à quel point les Raptors vont durer dans le temps. Puis, à mon avis, c'est aussi très lié à leurs résultats. Puis, ça va dépendre de leur joueur star, si Léonard prolonge ou pas dans la ville reine, parce que c'est lui qui on l'a déjà sur une saison nommé meilleur joueur de l'histoire pratiquement, hein, parce qu'il a, c'est aussi parfois un ou deux joueurs en basket, on retrouve vraiment ça. Jordan avait porté les Chicago Bulls à l'époque, et on retrouve souvent un ou deux joueurs qui peuvent porter une histoire. Donc, mais moi, j'ai l'impression, après faudrait faire des enquêtes et on voit voir dans le long terme, mais j'ai l'impression quand même qu'avec le changement démographique aussi, avec le fait qu'il y ait de plus en plus un multiculturalisme à travers aussi le Canada, le fait aussi qu'au Québec, par exemple à Montréal, on parle de temps en temps, même si hier le président de la Ligue de la NBA a dit on ne fera pas d'expansion au Canada, je pense qu'il y a réel engouement du basket au Canada, et je pense qu'il y a tout pour avoir un deuxième club, alors que ce soit à Montréal ou à Vancouver, on avait les Grizzlies, je pense qu'on a la place pour un deuxième club au Canada, mais j'ai comme l'impression quand même que c'est en train de monter, et Toronto qui était historiquement une ville où le sport n'était pas franchement une réussite, en tout cas au cours des dernières années, contrairement à Montréal, j'ai l'impression qu'ils ont renversé ça complètement. En tout cas, avec les Raptors, ça vient vraiment cristallisé. Et pour se promener, je me suis promené un petit peu hier à Montréal, il y avait aussi beaucoup d'échandails de Raptors au centre-ville.
En terminant, dernière question et votre dernière réponse m'a un peu inspiré. Vous avez dit on verra dans le temps, on va étudier le phénomène. J'ai l'impression que dans les universités, c'est peut-être une perception, vous avez la réalité, j'ai l'impression qu'on fait plus d'études, exemple sciences politiques, différents phénomènes sociaux, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de professeurs comme vous qui s'intéressent au sport, et pourtant, les buildings sont pleins à tous les soirs, on rentre du monde, on a une variété de sports au Canada. Pourquoi cette espèce, en tout cas ma perception, j'ai l'impression que c'est un peu du snobisme par rapport à ce sport, à ces sports qui, ma foi du bon Dieu, remplissent une partie de la vie de plusieurs des citoyens du pays?
Mais oui, c'est très intéressant. Moi, c'est pour ça que je me suis intéressé au sport, un peu aux études culturelles, parce que c'est vrai que c'est un des premiers sujets de conversation avec la météo.
Oui.
Vous avez une partie de hockey qui va durer une heure et demie, deux heures. Vous avez derrière une partie de une heure, deux heures de commentaires sur la game. Donc, vous avez 80, je sais pas combien de parties par année. Donc, c'est sûr que si socialement, ça veut dire quelque chose de notre intérêt. Moi, l'idée, c'est comme sociologue, mais on est quelques-uns. Ça se fait beaucoup plus aux États-Unis. Il y a une tradition peut-être plus, je vous dirais, française, francophone, à ne pas toucher ces objets-là, mais c'est en train de changer. Mais l'idée, c'est que c'est un élément qui fait partie de nos vies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur qui on est? Finalement, le fait d'encourager ces équipes-là, ça parle beaucoup aussi de nous-mêmes. Et est-ce qu'on est instrumentalisé par le sport? Est-ce que finalement, ça nous fait du mieux? Ça agit comment psychologiquement? Ça agit comment sociologiquement par rapport à ça? Qu'est-ce que ça me dit sur les valeurs aussi? Les valeurs de performance, par exemple. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont, par exemple, faire des stages de sport pour souder les équipes. Alors tout ça, pour moi, c'est très intéressant à analyser. Puis vous avez, J'aime beaucoup quand vous avez dit qu'il y avait un certain snobisme, mais c'est justement, je pense que les professeurs, les intellectuels doivent absolument changer ça, parce que l'idée, c'est de sortir justement des murs de l'université, aller voir ce qui se passe, aller voir les pratiques communes des personnes pour essayer de mieux saisir nos comportements. Et c'est ce que j'essaye de faire. Ça peut pas, vous pouvez pas ne pas analyser le fait que il y a le Jurassic Park qui est devant Toronto, où il y a des rassemblements de milliers de personnes. Le fait que, comme vous l'avez dit, RDS a fait une augmentation considérable de ses audiences hier. Ouais, c'est ça. Ça veut dire quelque chose quand même socialement. Alors, est-ce que ça veut dire que le Québec est en train de changer aussi sociodémographiquement? Est-ce que ça veut dire, par exemple, que la rivalité historique de Montréal entre Montréal et Toronto est en train de changer, par exemple, le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes à Montréal qui écoutent les Raptors? Est-ce que Toronto est en train de changer aussi? Est-ce qu'on est en train de s'américaniser, par exemple, avec le basket? Parce qu'on a beaucoup critiqué ça, par exemple, au hockey, qu'il y avait une américanisation du hockey. Est-ce que finalement on s'américanise tout seul? Ou est-ce que Toronto est déjà une ville américaine plutôt que canadienne par le biais d'avoir une équipe de basket de la NBA? Puis si un jour ils avaient une équipe d'ailleurs de la NFL, ça serait probablement la mort aussi de la Ligue canadienne de football. Donc il y a plein de questions, à mon avis, sociologiques très intéressantes à se poser par le biais du sport. Et moi, je trouve que c'est un instrument tout à fait pertinent et vraiment merveilleusement, ça vient me chercher comme sociologue, et je prends beaucoup de plaisir à analyser ça.
Continuez votre travail. Merci à vous. Bonne journée.
Merci, je vous en prie. Bonne journée.
Nicolas Moreau, il est professeur à l'Université d'Ottawa.